Ce jour dédié pour la refouachema de Bracha Simcha Bat Rachel. On pose la question ici d'expliquer un peu les différentes bénédictions de la Amida. De toute façon, on a le temps de faire tout, on va commencer par la première. D'abord, il faut savoir que Rachaim de Volozhin, dans son livre, dont je recommande beaucoup la lecture, qui est un livre dur, mais super profond et beau, Nefesh Rachaim, l'âme de la vie, traduit en français, ça existe. Dans chapitre 1, il explique, je crois chapitre 1, il y a 4 chapitres, 4 portails, d'accord? Dans le portail numéro 1 ou 2, il parle de l'impact de la prière. Et il explique que donc la prière, elle a un impact absolument colossal que nous ne connaissons pas. Et qu'à part le sens simple des mots que nous disons, il est clair qu'il y a beaucoup de secrets kabbalistiques qui sont insérés là-dedans, vu que ce sont des prières qui ont été instituées par des prophètes. À part une, c'est la minim et la malchinim. Donc à la base, il y avait 18 bénédictions. Et lorsqu'a commencé la chrétienté, alors les sages d'Israël ont demandé à un grand sage d'Israël de mettre une 19e bracha. C'est pas écrit nominalement les chrétiens, mais c'est d'eux qu'on parle, les minimes, d'accord? Les minimes, ce sont donc des non-croyants, croyant des choses qui sont fausses, pour affaiblir leur pouvoir qui était considérable, ils ont vu que ça allait être notre pire ennemi durant l'histoire, la chrétienté. Je pense qu'ils nous ont causé toute cette éducation du monde occidental, le peuple déicide, d'accord? L'antisémitisme latent qu'il y a dans le monde occidental provient d'une éducation de 2000 ans, d'antisémitisme religieux, circulation que nous sommes un peuple déicide. Si on lit cette bénédiction, c'est très simple. Qu'il n'y ait plus d'espoir, élimine tous les ennemis d'Israël, enfin un truc très simple. On va demander à un grand qui peut parmi nous arriver à composer une bracha de ce genre-là. Et un seul la plus, il s'appelait Shmuel Akatan, le petit Shmuel, d'accord, qui était très très grand, il l'appelait Akatan, petit, parce que de toute façon, pas qu'il y a rien à voir, d'accord, il est extrêmement grand. Et pourquoi? Celui de la prière, n'importe qui peut faire ça. Il est clair que ces prières-là sont des prières qui ont un impact colossal dont nous ne connaissons absolument rien, parce que ça parle des mondes supérieurs très très hauts. Et même la Kabbalah, la mystique juive, d'accord, qui donne beaucoup d'intention kabbalistique pour chacun des mots de cette prière, c'est des pages et des pages pour chaque mot. Elle dit elle-même que c'est un millième ou un milliardième par rapport aux intentions qu'avaient effectivement les prophètes en instituant ces prières. On déduit Rabbi Chaim de Volozhin que le meilleur moyen de prier, c'est quoi? Que quand tu dis le mot, tu as les yeux fermés, tu imagines les lettres du mot. Si possible, flamme noire sur flamme blanche. Je ne sais pas comment on fait une chose pareille. Noir sur blanc. D'accord? C'est très dur. Le Ben Yishraï ramène cela, mais il dit que c'est trop long. Donc, essaie de le faire au moins durant la première bracha. Donc, tu vois, Baruch, Bet, Resh, Vav, Kaf, Sofit, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech. Bien que, on connaît pas le vrai sens des choses, mais vu que ce sont les lettres qui agissent quand on prie, les lettres que nous prononçons, elles vont agir sur les 22 lettres de l'alphabet, qui sont le monde le plus haut qu'il y a. Dieu a créé le monde avec la parole. C'est quoi la parole? Il y a 22 axes par lesquels Dieu a agi, qui correspondent aux 22 lettres, d'accord, le mot lettre en hébreu se dit hot. Hot signifie aussi quoi en hébreu? Signe. Ça veut dire que ce sont les lettres que nous avons sont des signes de quoi? Des signes de ces 22 forces divines qu'il y a, qui est le monde le plus haut qu'il puisse y avoir. Donc quand on prie, on fait agir ces mondes-là, qui amènent une très, très grande lumière dans le monde inférieur, jusqu'à nous-mêmes, et ça amène beaucoup de bénédictions divines. Donc un bon truc à savoir déjà en préambule, qu'il est super bien, si on peut, de voir les mots. C'est pour ça qu'il y a des sages d'Israël qui dit c'est mieux de prier dans le sidour. L'alakha, c'est mieux de prier les yeux fermés. Mais si quelqu'un pourra mieux se concentrer en lisant dans le sidour, mieux que lisant dans le sidour. L'essentiel, c'est de bien se concentrer. Une autre chose du même type aussi, est-ce que quand on prie, on se balance ou pas? Aujourd'hui, l'habitude, la majorité des juifs, c'est se balancer. Tant qu'ils se balancent, c'est des vrais à croire que plus ils se balancent, plus la prière va monter. D'accord? Ça se peut. C'est pas forcé. Dans l'Halakha, il y a quelques siècles, c'était écrit « défense de bouger ». Mais les dictionnaires actuels ont dit « aujourd'hui, cette défense n'existe plus. L'essentiel, c'est que tu te concentres. Tu te concentres mieux en te balançant, balance-toi. » Il y a un danger, des fois, on se balance, on a l'impression qu'on est en train de prier. Parce que le balancement te met en situation de « comme si je prie ». Mais en fait, t'es pas là, t'es à Honolulu, et tu passes par Tombouctou, et tu reviens en Suisse, d'accord? Alors que tu es en train de... Alors, tu as l'impression de prier. Si tu es immobile, tu comprendrais bien que tu n'es pas du tout là. Les sages Sfarades que j'ai vus prier, Rav Ovadia Yosef, Rav Yisrael Bashaoul, Yehuda Tzadka, ne bougeaient pas. Immobile. Complètement immobile. Alors, chacun doit choisir comment il veut prier. L'essentiel, c'est bien se concentrer. Donc, comme la question de avoir les yeux fermés ou ouverts, là aussi, l'essentiel, c'est bien se concentrer. Pourquoi il y en a qui recommandent d'avoir les yeux ouverts? Parce qu'ils disent que quand tu lis dans le sidour, alors tu vois les lettres. Donc, tu imagines les lettres. Donc, ça agit au niveau des lettres. Pas besoin de fermer les yeux et voir le mot ouvert, tu l'as devant toi. Donc, c'est un bon moyen d'agir d'après ces paroles de Rav Chaim Volozhiner qui dit qu'il faut imaginer les lettres lorsqu'on va avoir les yeux fermés et regarder dans le sidour. Attention, dans ce cas-là, on n'a pas le droit même de regarder une seconde hors du sidour. Que dans le sidour, on ferme les yeux. Quand on fera modim, on se protège, tu ne peux pas te protéger avec le sidour comme ça, d'accord? Donc, moi, tu fermes les yeux pour ne pas être amené à regarder hors du sidour. C'est extrêmement grave d'ouvrir les yeux pendant l'Amida, c'est que celui qui fait cela, alors il ne pourra pas avoir, d'abord ça, Chassé Shalom, ça rapproche l'ange de la mort, et il ne pourra pas avoir la Shrina après ses 120 ans dans l'Amaba, Dieu nous en préserve. Donc faire attention de bien fermer les yeux durant l'Amida. Ok, on va commencer par la première des Brachot, je ne sais pas si on a le temps de la finir. Baruch. Que signifie Baruch? Deux explications. L'explication la plus simple est que mieux vaut penser comme ça sans se casser la tête trop, c'est béni sois-tu. L'Éternel. Baruchata Hashem. Les gens posent la question, comment moi je bénis Hashem? Là, il y a une autre explication qui est plus profonde, qui provient du Rashba, de Rabbi Chaim de Volozhiner aussi dans ce même livre, Nefesh HaChaim. Et il dit que quand tu dis Baruch, en fait, tu amènes un flux de lumière depuis l'infini, la source de bénédiction, dans le nom de Dieu, Yudke Vavke. Ça veut dire qu'il y a Hashem et il y a son nom. Comme il y a moi, il y a mon visage. Quand on me parle, on parle, on regarde mon visage. Mais est-ce que c'est moi, ça? C'est pas moi. Un morceau de chair, poilu, un organe un peu, un membre un peu proéminent ici dans le visage, un petit truc de verre et de métal dessus. Les yeux, quand on regarde quelqu'un profondément, regardant ses yeux, c'est de la gélatine. C'est pas moi. Je ne suis pas un mélange de chair, de métal et de gélatine. Simplement, c'est mon écran. Comme quand tu parles à quelqu'un par Skype, bah tu parles à l'écran, tu le regardes. Et un chien qui est de côté te regarde et dit, c'est marrant, il parle à sa grand-mère, je la connais, elle fait 1,5 m de large, elle tient dans l'écran extra plat, comment elle fait? D'accord? Il dit, c'est marrant, elle est à New York, comme ça qu'il lui parle maintenant ici. Il ne comprend pas que nous sommes, je parle à ma grand-mère qui est à New York, mais je regarde, je m'adresse maintenant à l'écran. Ça, c'est l'écran. De même, quand je m'adresse à Hachem, je m'adresse à lui. Mais il m'a communiqué un moyen de m'adresser à lui, parce que lui, il est infini, il m'a communiqué son nom. Au Mont Sinaï, il a dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis Yud Kei Vav Kei, ton Dieu. Maintenant, Chas Shalom, Dieu nous plaise de faire une différence entre lui et son nom. Parce que lui et son nom font un. Un total. Comme moi, je fais un avec moi-même. Il m'est très dur quand je suis un peu inquiet, que ma femme ne le décèle pas tout de suite dans mon regard. Parce que le visage exprime l'intérieur. En hébreu, panim, c'est visage, vient du mot pnim qui signifie intérieur. L'expression, l'organe d'expression de moi-même, c'est pas mon coude, c'est mon visage. Parce que moi et mon visage font un, sont unis. L'unité qui est entre mon visage et moi, elle est très très pas une, c'est une petite unité. L'unité qu'il y a entre Hachem dans son entité intrinsèque et son nom, elle est totale. Totale, une totalité absolue, impossible qu'il y ait plus un que ça. Il faut bien comprendre cela, sinon on rentre dans des trucs compliqués. Néanmoins, quand on dit Baruch, on fait venir un flux de la source infinie dans le nom de Dieu, Yudke Vavke. Ça, c'est le nom de Baruch Ata Hashem. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre comment moi, je ce petit moustique que je suis, je vais bénir Hashem. Baruch Ata Hashem, Erat Hashem, on fera la suite ultérieurement. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.